Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans le podcast Tout sur Tout Histoire. Je suis Clotilde Dagneau. Tout sur Tout Histoire, c'est le podcast énergie pour celles et ceux qui n'écoutaient pas au fond de la classe d'histoire. Vous pourrez y découvrir des biographies de personnages célèbres, des récits d'événements marquants, des histoires insolites. Laissez-vous surprendre par l'histoire dont on ne vous a jamais parlé à l'école. Cette semaine, on va vous parler d'alcool. D'un alcool en particulier même. Alors évidemment, si c'est nécessaire de le préciser, cet épisode n'a pas du tout vocation à encourager la consommation d'alcool. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de la vodka. Et si cela vous donne envie de vous servir un verre, on vous encourage à le faire de façon responsable. Mais que vous buviez de l'alcool ou pas, cette histoire va vous intéresser. La vodka est une boisson liée à l'identité culturelle de plusieurs pays. On va voir d'où elle vient, comment elle a évolué et pourquoi elle est liée à ces pays. Bon, je parie que quand vous entendez « vodka » et « pays », vous avez déjà une idée en tête. Eh bien, on va voir à quoi tient cette idée. Je vais aussi vous parler un peu de la fabrication de la vodka et de son histoire, depuis ses origines jusqu'aux produits de consommation mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Et pour ça, je vais me concentrer sur les pays qui ont commencé à la populariser. Ensuite, évidemment, je parlerai des aspects problématiques de la vodka dans le monde. Mais on terminera sur une note amusante, c'est promis. Déjà, la vodka est un peu particulière parce qu'elle peut être fabriquée à partir de beaucoup de choses différentes, tout en restant considérée comme de la vodka. Et ce n'est pas tellement le cas des autres spiritueux. Jusqu'où peut-on en changer l'ingrédient de base tout en ayant le droit d'appeler ça de la vodka ? Eh bien, il y a beaucoup de débats et de désaccords sur ce critère. D'abord, pour faire de la vodka, il faut un ingrédient qui procure du sucre ou de l'amidon. Dans les pays septentrionaux, comme la Pologne ou la Russie, entre autres, on utilise des céréales, des pommes de terre ou de la mélasse de betterave sucrière. D'ailleurs, vous savez peut-être qu'on surnomme le nord de l'Eurasie la ceinture de la vodka. Ça désigne toute la région qui va de la Suède à la Russie. C'est là qu'on produit la majorité de la vodka consommée dans l'Union européenne. Mais il y a d'autres régions qui utilisent les mêmes procédés de fabrication que la vodka, avec d'autres ingrédients de base. On en fait par exemple avec du maïs ou des fruits. Et est-ce que ça peut être considéré comme de la vraie vodka ? C'est là qu'il y a débat. Ça a été beaucoup discuté. Finalement, le Parlement européen s'est prononcé en 2007. Il a accordé aux distillateurs un éventail d'ingrédients très large pour fabriquer la vodka. Il définit cette boisson comme un spiritueux produit à partir d'alcool éthylique d'origine agricole. C'est tout. Vous pouvez même faire de la vodka à partir de simple sucre si vous voulez. Mais bon, ce n'est pas vraiment recommandé, d'après ce que j'ai compris. Après, je n'ai jamais distillé de vodka moi-même, donc je me base sur ce que j'ai lu. Sans surprise, cette décision du Parlement n'a pas été très appréciée. Pour les puristes, elle a vraiment marqué une dégradation de la vodka. Par exemple, le politicien finlandais Alexander Stubb voulait qu'elle ait des critères plus stricts. Il a déclaré, je cite, « Nous fabriquons de la vodka à partir de pommes de terre et de céréales depuis plus de 500 ans. Lorsque nous sommes devenus membres de l'Union européenne en 1995, on nous a dit que la vodka aurait une définition stricte. Tout comme le rhum, le whisky et la grappa. Nous ne voulons pas que la vodka soit une sorte de poubelle alcoolique. » J'aime bien cette citation. On dirait que l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne dépendait de la définition de la vodka et que c'était vraiment un critère de leur deal d'entrée. Que la vodka soit définie par des critères stricts. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. En fait, si ces règles sur les ingrédients de la vodka ont été assouplies, c'est parce qu'elle était déjà fabriquée à partir d'ingrédients très variés dans toute l'Europe. S'il y avait eu une définition plus stricte, cela aurait exclu les producteurs qui utilisaient autre chose que des céréales et des pommes de terre. Et donc, cela aurait provoqué une guerre commerciale. Imaginez que vous allez au supermarché pour acheter de la vodka, votre marque habituelle. Et puis en fait, une loi restrictive est passée. Et les vendeurs vous disent « Non, la vodka que vous achetez depuis des années, ce n'est plus de la vodka. » Ça serait absurde, non ? Au passage, aux États-Unis aussi, la loi définit la vodka avec des critères très généraux. C'est un spiritueux neutre, distillé, ou traité après distillation avec du charbon de bois ou d'autres matériaux, de manière à ne pas présenter de caractère, d'arôme, de goût ou de couleur distinctif. C'est tellement vaste! En tout cas, que cet ingrédient soit traditionnel ou plus original, les fabricants le fermentent. Ensuite, ils le broient, ils le mélangent à de l'eau, et puis ils le chauffent. C'est ce qui transforme l'amidon en sucre. Ils combinent le résultat à de la levure. Ça donne un mélange qu'ils distillent pour récupérer le liquide. Et vous le savez peut-être, l'alcool bout plus rapidement que l'eau. Donc l'alcool contenu dans ce mélange s'évapore plus rapidement, et la vapeur est récupérée. Ensuite, la vapeur est condensée en un alcool très puissant. Cet alcool est encore combiné à de l'eau. Cette fois, on a le produit final, la vodka. Ou presque. En fait, c'est le processus de base. Avec ces étapes, on obtient ce qu'on pourrait techniquement appeler de la vodka. Mais en général, elle sera encore raffinée et transformée après ça, pour altérer le goût et augmenter la pureté. La vodka est filtrée sur du charbon de bois, de la lave, du lin ou d'autres supports. Ou alors elle passe par d'autres distillations. Après ça, elle est plus propre et plus pure. C'est au cours de ces étapes qu'elle perd aussi presque tout son goût. Si vous explorez les sites internet pour voir ce que les gens ont utilisé pour filtrer la vodka, vous trouverez de tout. Ça va de la poussière de diamant à un morceau de tissu dédoublé. Il y en a qui construisent leur identité de marque autour de leurs moyens de filtrer. S'ils fabriquent des produits artisanaux en petite série, par exemple, ils se démarquent en créant une nouvelle manière de filtrer. Vous me direz, la vodka aromatisée est très populaire. Oui, mais l'arôme doit être ajouté après toutes ces étapes. Ça se fait parfois au niveau de la production. Mais il y a beaucoup de consommateurs qui achètent de la vodka neutre et qui ajoutent ensuite leurs propres arômes. Ils ont leur saveur personnalisée. Je suis sûre que si vous avez des amis qui aiment la vodka, il y en a qui l'infusent avec des bonbons ou de la pomme, ou d'autres choses encore. Il y a des consommateurs et des connaisseurs qui veulent que la vodka ait le goût de ses ingrédients d'origine, plutôt qu'une saveur ajoutée après distillation. Du coup, des producteurs de vodka artisanale utilisent des petits alambics en cuivre, au lieu des alambics de fabrication industrielle. Dans les petits distillateurs, l'alcool conserve un peu du goût des composants. Si vous voulez que votre vodka ait un peu le goût du blé ou de la pomme de terre, ou de ce qui a été utilisé au départ, c'est sûrement la meilleure façon d'y arriver. Et maintenant, parlons de l'origine de la vodka, ou du moins, de ce qu'on considère comme son origine. La vodka, c'est une boisson alcoolisée. Mais on pense qu'à la base, elle a été conçue à des fins médicinales. Et on a du mal à arrêter une origine précise à celle-ci. Du coup, chaque pays a sa version pour revendiquer son origine. C'est quand même le spiritueux le plus populaire du monde. La Russie et la Pologne n'arrêtent pas de se disputer là-dessus. Les deux utilisent un argument linguistique pour dire que la vodka vient de chez eux. En fait, le mot russe pour désigner l'eau, c'est « voda », avec un « v ». Le mot polonais, c'est « voda », avec un « w ». Je ne suis pas capable de la rendre audible, donc désolée pour ceux qui parlent couramment l'une de ces deux langues. Les deux mots se ressemblent beaucoup, surtout pour les oreilles occidentales. Ceux qui donnent à la vodka des origines polonaises disent que le mot « vodka » est apparu dans la presse avec un « w », avant d'apparaître avec un « v ». La version polonaise serait donc la première. Mais il y a d'autres arguments. Il existe une boisson polonaise appelée gozałka et bue depuis le XIe siècle. Pour certaines personnes, c'est la proto-vodka originelle. Mais le contre-argument russe, c'est que la gozałka est un alcool plus général, moins défini. Ce n'est pas forcément un alcool lié à la vodka. L'Ukraine aussi peut prétendre être le berceau de la vodka. En fait, c'est là-bas qu'on produisait le plus de céréales au XVe siècle. Ça pourrait donc être logique que cet alcool à base de céréales ait été inventé là-bas. Ou peut-être que la vodka a été créée ailleurs et introduite dans cette région plus tard. Les habitants auraient appris à la fabriquer eux-mêmes sans l'inventer. En bref, on sait que la vodka, comme on la connaît aujourd'hui, est née quelque part en Europe de l'Est. Mais on ne sait pas vraiment qui l'a inventée. Entre l'Ukraine, la Russie, la Pologne ou la Biélorussie actuelle. Mystère. Mais ce qu'on sait, c'est que toute cette région du monde est inhospitalière à la culture du raisin. Des gens inventifs ont donc trouvé des façons de faire de l'alcool sans raisin. La théorie la plus répandue, c'est qu'on doit l'invention de la vodka à des moines. D'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup d'alcools. La légende raconte qu'ils auraient eu besoin d'un spiritueux pour servir de sédatif et de désinfectant dans les communautés où ils travaillaient. Ils se seraient tournés vers le blé pour fabriquer ce produit. C'est pour ça que la vodka a sûrement des origines médicinales. Dans les années 1400, la vodka est devenue un peu plus raffinée. Sa production s'est aussi élargie à d'autres céréales. Les premières vodkas étaient sûrement assez âpres. Elles devaient avoir un goût un peu désagréable. Il n'y avait pas de raffinage et de filtrage comme aujourd'hui. Et au XVe siècle, on a commencé à ajouter des arômes pour lui donner un meilleur goût. Les fruits, le miel et les épices sont entrés en jeu. Mais en rendant la vodka plus savoureuse, les distillateurs l'ont un peu éloignée de son but médicinal. L'usage est devenu, disons, récréatif. Ça commençait à être bon. Ce changement a provoqué plus d'expérimentation et d'innovation. Le développement de l'industrie et du transport maritime a fait voyager la vodka de plus en plus loin. Malgré ça, il se passe encore beaucoup de choses intéressantes dans ces régions d'origine. Par exemple, en Pologne, au XVIe siècle, on utilise des vodkas à base de plantes pour traiter certaines maladies. C'est aussi en Pologne que la pomme de terre est utilisée pour la première fois comme base à la vodka. Les distillateurs polonais continuent à explorer les arômes et à perfectionner les méthodes de distillation jusqu'au XIXe siècle. Malgré tout cela, aujourd'hui, on associe plutôt la vodka à la Russie. C'est sûrement dû à Ivan III, qu'on appelle aussi Ivan le Grand. Il a fait de cet alcool une source de revenus essentielle pour la Russie. En 1474, Ivan III commence à taxer la vodka. Il donne à l'État le monopole sur la fabrication et la vente de cet alcool. C'est ce qui ouvrira la voie à son successeur, Ivan le IV, qu'on connaît sous le nom d'Ivan le Terrible. Ce dernier continue à réguler le flux de vodka selon ses envies. Il en interdit même l'achat à la plupart des citoyens. Toutes ces décisions créent une nouvelle classe sociale de privilégiés, ceux qui ont le droit à la vodka. Ivan le Terrible leur distribue des terres et tourne le dos à la noblesse qui existait avant cette restructuration. Il utilise aussi la vodka pour s'assurer la loyauté de ses sujets. La règle est simple avec lui. Si on trahit le tsar, on perd le privilège de consommer de l'alcool. D'autres dirigeants russes utiliseront la vodka pour récompenser leurs favoris. Ils s'en serviront aussi pour saouler leurs invités et leur faire révéler des secrets d'État. Pierre le Grand, par exemple, forçait ses ennemis à boire jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Au XVIIIe siècle, c'est Catherine II, ou Catherine la Grande, qui va remettre la vodka dans les chopes du peuple. Elle met fin au monopole d'État sur la vodka. Davantage de distillateurs sont autorisés à en produire. Les coûts de la vodka sont réglementés pour maintenir des prix raisonnables. Mais la régulation du prix d'une marchandise conduit souvent à une dégradation de la qualité du produit. En effet, si les coûts sont plafonnés à un niveau trop bas, les producteurs diluent leurs produits pour maximiser leurs marges. À cette époque, la qualité de la vodka est considérée comme un moyen rapide d'identifier le statut d'une personne. Et s'il n'y a plus de privilège d'accès à la vodka, la hiérarchie sociale se reconstitue en fonction de la pureté du produit. Les ménages les plus riches commencent à distiller leur propre vodka en utilisant des arômes et des épices coûteux. Ça leur permet de se distinguer des paysans aux yeux de leurs invités. Dans les années 1860, Piotr Smirnov fonde une société de vodka à Moscou. Sa distillerie devient la source d'approvisionnement favorite de la famille royale. Et aujourd'hui, la marque Smirnov est l'une des marques les plus répandues dans le monde. Smirnov renforce le lien entre la Russie et la vodka dans l'esprit des consommateurs du monde entier. Par la suite, sous les bolcheviks, dans les années 1910, l'alcool est interdit. La vente de boissons alcoolisées douces est autorisée de nouveau en 1922. C'est l'année de la création de l'Union soviétique. Puis en 1925, la vodka est à nouveau légalisée à son taux d'alcool normal. Quand Staline prend le pouvoir, dans les années 1930, il crée des distilleries d'État et augmente la production. Il sait qu'il y a un problème d'alcoolisme dans le pays, je vous en parlerai en fin d'épisode, mais il fait ça pour générer des revenus. Après la mort de Staline, des efforts sont mis en place pour tempérer la consommation de vodka. Mais l'alcool reste un problème en Russie. Ce n'est que dans les années 1980, sous Gorbatchev, que les efforts commencent à porter leurs fruits. Les programmes lancés à cette époque permettent de réduire un peu la consommation d'alcool en Russie. Les statistiques de santé de la population s'améliorent, mais l'opinion publique finit par s'opposer aux restrictions. Après la Russie, le deuxième plus grand consommateur de vodka au monde, ce sont les États-Unis. Étonnant, non ? En tout cas, moi, ça m'a étonné. C'est seulement après la prohibition que la vodka se démocratise outre-Atlantique. Avant ça, les Américains n'avaient que quelques vodkas médiocres. Ce n'était pas du tout une boisson populaire. Dans les années 1930, Rudolf Kunet entre en jeu. Lui, c'est un immigrant russe aux États-Unis et il achète les droits d'exploitation de la marque Smirnov. Aux États-Unis, il commence à vendre une vodka de meilleure qualité que celle qui était disponible avant. Mais sa distillerie du Connecticut est un peu en difficulté jusqu'à la fin de la décennie. Elle finira par être rachetée par John G. Martin pour le compte de la Hublin Liquor Company. L'entreprise Hublin est ensuite absorbée par une société plus importante. Mais John G. Martin ne perd pas ses droits sur le nom de Smirnov. En fait, quand il était cadre chez Hublin, il a bien tenu à se réserver les droits de distribution de la Smirnov. Pendant plusieurs années, il n'en fait pas grand-chose. Mais en 1941, avec un de ses amis, qui est propriétaire d'une taverne, ils ont une idée. Ils combinent de la ginger beer et de la vodka, avec du jus de citron ou du citron vert, dans une chope en cuivre. La légende veut que ça se soit passé à Los Angeles. C'est là qu'était la taverne de son ami. Ou alors à New York d'abord, pour ensuite prendre son essor à Los Angeles. Bref, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. Mais John G. Martin et son ami inventent le Moscow Mule, que l'on retrouve dans beaucoup de bars aujourd'hui. Avec l'invention du Moscow Mule, les États-Unis adoptent la vodka, mais pas pour longtemps. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, elle devient non grata au pays de l'oncle Sam. Comme tout ce qui est associé de près ou de loin à l'Union soviétique. Mais la consommation de vodka ne disparaît pas complètement. John G. Martin continue à l'utiliser comme base pour concocter d'autres cocktails. En 1962, la vodka revient en grâce aux yeux des Américains quand Sean Connery commande un martini à la vodka dans le film James Bond 007 contre Dr. No. Et plus encore, quand le président Richard Nixon visite l'Union soviétique. À son retour, il approuve les relations commerciales entre Pepsi-Cola et l'URSS. Un accord est même conclu. L'URSS aide à l'installation d'une usine Pepsi sur son territoire. En échange, l'entreprise américaine est payée en vodka Stolichnaya. Le géant du soda devient donc le distributeur officiel de la vodka Stolichnaya aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'avec le soutien de Pepsi, la vodka devient le spiritueux le plus populaire aux États-Unis en 1975. Aujourd'hui, la vodka est toujours l'un des alcools les plus consommés outre-Atlantique. Smirnoff est la marque la plus populaire. Et si l'on regarde le top 10 des spiritueux américains d'une année sur l'autre, la vodka est régulièrement dans les deux premières places. En général, avec Smirnoff. Concurrencé bien sûr par le whisky, qui prend presque toujours la tête du top. Bon, vous vous en doutez, l'histoire de la vodka a aussi un côté plus sombre. Partout dans le monde, il y a eu beaucoup de problèmes liés à une certaine complaisance envers l'abus d'alcool et l'alcoolisme. Par exemple, à la fin du 19e siècle, la Russie connaît une vraie crise de l'alcoolisme. La situation est tellement grave qu'elle menace l'emploi. Des groupes d'activistes, des églises et des professionnels de santé dénoncent publiquement le problème. À tel point que le tsar Alexandre III ne peut plus faire comme si de rien n'était. Il décide alors de limiter la production de vodka et met en place une réglementation pour garantir la qualité du produit. Dans le même temps, il crée une société nommée la gardienne de la sobriété publique, qui incite à la modération en termes d'alcool. La modération, pas l'abstinence ou la sobriété. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser. Pour être clair, Alexandre III est un bon buveur. Donc, quand il crée toutes ces mesures, il répond sûrement à des pressions extérieures. Il ne s'est pas dit « Eh, on devrait réduire la consommation d'alcool dans le pays ». Il aimait trop boire pour ça. La Russie lance aussi un programme pour encourager les divertissements sans alcool. Il y a des pièces de théâtre et des concerts gratuits, ou des offres de formation pour adultes et d'autres mesures d'incitation au loisir. Mais rien ne marche vraiment. Les réglementations ne peuvent pas empêcher la vente illicite d'alcool, ni les produits de mauvaise qualité. Ce problème d'alcoolisme continue pendant la guerre russo-japonaise au début du XXe siècle. Il coûte même quelques batailles à la Russie. Ça met le pays au pied du mur dans le conflit. Le tsar se retrouve en position de faiblesse pour négocier un traité à cause de l'alcoolisme. En plus, l'interdiction de la vente d'alcool aux troupes, pour qu'elles restent mobilisées dans le conflit, provoque la perte d'une énorme source de recettes fiscales. Au début de l'année 2014, une étude intitulée « Alcool et mortalité » est menée à l'Université de Toronto. Ces résultats sont assez inquiétants. Les auteurs, Jürgen Rehm et Kevin Shield, soulignent que plus de 200 maladies sont liées à l'alcool. Ils concentrent leurs recherches sur le cancer, la cirrhose du foie et les blessures. Ils indiquent qu'en 2010, 4,1% de tous les décès dus à ces maladies dans le monde viennent de la consommation d'alcool. Cette même année, l'alcool a fait perdre en moyenne 4,3% d'espérance de vie globale. Ces chiffres ont augmenté par rapport aux données de 1990. On arrive à la fin de cet épisode, et pour être bien clair, je ne veux pas vous inciter à sortir boire des litres de vodka. Soyons raisonnables. Et je ne veux pas minimiser ou banaliser les questions d'alcoolisme et de dépendance. Mais ce serait vraiment déprimant de terminer cet épisode là-dessus. Du coup, je vais plutôt finir sur quelques infos que je trouve étonnantes sur la vodka. Vous pouvez acheter de la vodka bon marché et la mettre dans un flacon pulvérisateur, et si vous n'avez pas le temps d'aller au pressing, vous en pulvérisez sur les vêtements. Ça les rafraîchit et ça tue les bactéries qui causent les odeurs. Une autre petite astuce ménagère, c'est de mettre de la vodka et du sucre dans l'eau des fleurs. Il paraît que ça prolonge la durée de vie des plantes. Mais je n'ai jamais essayé. J'aime bien ce genre de petites astuces. La vodka est un solvant universel. On l'utilise aussi en médecine, pour son côté nettoyant ou astringent, et aussi dans l'art. Et même pour raviver les couleurs d'objets en or. C'est génial. Encore une fois, n'abusez pas de la vodka. Ou ne buvez pas du tout si c'est le choix que vous préférez faire. Faites tout ce qui vous convient et qui est le mieux pour votre santé. « Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout sur Tout Histoire. Tout sur Tout Histoire est un podcast Énergie et iHeart Podcast. Cet épisode a été écrit par Tracy Wilson et Oli Frey pour le podcast américain Stuff You Missed in History Class et produit en collaboration avec l'Acme Productions. Retrouvez tous les épisodes sur energie.fr, sur l'application Énergie ou sur votre application de podcast préférée. Et si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Si vous avez aimé, c'est vraiment la meilleure manière de soutenir ce podcast. À bientôt !